mettre dehors, et systématiquement, en plus, comme c'est illégal, ils le font avec d'autant plus de plaisir qu'ils sont de l'Arzac, et puis finalement... Non, mais de toute façon, alors il y a eu des déchets l'an dernier absolument faramineux. Burguer m'a dit qu'il avait eu plus de 20% de déchets sur son troupeau de brebis, à la suite d'une épidémie de je ne sais plus quelle maladie. Donc il y aura à manger pour les vautours, et en plus il y aura des charniers artificiels entretenus par le Parc National des Cévennes, pour bien sûr, pour être sûr de les fixer là. Alors on avait lâché 4 vautours en 1970, sur les 4, 2 ont disparu au bout de 6 mois, mais naturellement on peut espérer que cela, ça s'est bien passé. Par contre, 2 autres ont été tués, l'un dans des fils à haute tension, l'autre par un chasseur. Et on avait commis l'erreur de lâcher les oiseaux en première année, qui étaient soumis à un instinct d'ératisme juvénile, c'est-à-dire des oiseaux qui ont besoin de partir, besoin de connaître du pays. Ce n'est pas une vraie migration, c'est un mouvement désordonné qui conduit les vautours espagnols vers le sud de l'Espagne ou vers les Pyrénées du Nord, etc. Alors maintenant, on les a laissés vieillir exprès en volière, et une fois adultes, là, cette fois ils sont sédentaires et on n'a plus aucun risque. Les vrais risques qui subsistent, c'est la chasse et la strychnine, qui sont vraiment les deux menaces principales. Et la strychnine surtout. Alors pour l'instant, c'est un problème qui n'est pas encore résolu. Le préfet de l'Aveyron nous a dit l'année dernière que c'était extrêmement intéressant de réintroduire des vautours fauves dans une région, car ça reconstituait des équilibres naturels, mais qu'il fallait s'arranger pour que les vautours restent en Lozère, parce que dans l'Aveyron, ils voulaient continuer à mettre de la strychnine. Alors par contre, grâce à ça, on a déjà obtenu que 4 départements limitrophes du projet aient interdit la strychnine, déjà maintenant. Mais on espère au niveau national voir son interdiction dans l'année actuelle. Mais on n'obtiendra que l'interdiction de l'utilisation et pas de la vente. Ça, ce sont les subtilités de la législation française. On interdit quelque chose, mais pas de le vendre ni de le fabriquer. C'est la stratégie des animaux qui vivent longtemps et qui font peu de jeunes. Ça vit très vieux et ça fait très peu de poussins, alors qu'une mésange, ça vit 2 ans et ça fait beaucoup. La clé de la survie des vautours, c'est leur longévité. Ça vit couramment 50 ans, certainement, dans la nature. Et en captivité, je crois qu'il y a un vautour qui a vécu 80 ans. Donc ce sont vraiment les champions de la longévité du monde animal. Hein. Tous les vautours. Alors évidemment, la perte d'un jeune n'est pas très grave chez des espèces comme ça. Elle est relativement peu grave, et la perte d'un adulte est irremplaçable. Alors, parallèlement à ce projet de réintroduction du vautour fauve, qui est vraiment très engagé, on espère faire le premier lâcher en décembre de cette année, de 1980. Alors, il y a un projet de réintroduction du gypaète barbu dans les Alpes, parce que là, si on parlait de disparition de faune, alors les massifs alpins, c'est monstrueux. Quand on compare les Alpes et les Pyrénées, ça va vous faire plaisir, parce que vous êtes peut-être un peu chauvin. Il manque des grosses bêtes dans les Alpes par rapport aux Pyrénées. Il manque. La marmotte, elle existe dans les Alpes, mais elle n'a jamais existé dans les Pyrénées. Mais il y a l'ours quand même qui vit dans les Pyrénées, qui a disparu des Alpes. Il y a tous les grands rapaces, il y a tous les grands nécrophages qui sont ces grands vautours, fauves, percnoptères et gypaètes. Alors il y a un projet en ce moment pour reconstituer la population de gypaètes alpines, qui est vraiment une gageure dans la mesure où il est question d'en remettre depuis les Alpes italiennes jusqu'aux Alpes autrichiennes. Dans cette immensité de l'arc alpin, évidemment, ça représente une population monstrueuse à reconstituer, avec l'interdiction de se fournir dans la nature, car les populations de gypaètes naturelles sont trop faibles pour pouvoir y puiser les individus. On avait commencé en prenant des gypaètes en Afghanistan, mais maintenant c'est fini, d'une part parce que la population afghane est trop faible, et d'autre part pour les événements que vous savez. On pourrait éventuellement se prendre quelques gypaètes dans l'Himalaya, mais c'est une autre sous-espèce, donc on est forcé de se contenter des animaux captifs qui existent en ce moment, captifs en Europe. Alors il y a eu depuis 2 ans un mouvement de solidarité de tous les zoos d'Europe qui détenaient des gypaètes, même le zoo de Vincennes à Paris, le Jardin des Plantes, réputé pour une compréhension relativement difficile à tous les égards de nos problèmes de protection, et bien même ce zoo a cédé son gypaète. C'était une femelle qui a découvert un mâle qui lui plaisait et qui a pondu immédiatement dans les 3 mois qui ont suivi sa mise en volière. Mais apparemment, il n'y a pas eu de l'œuf n'est pas fécondé, mais enfin, c'est très encourageant. Et cette année déjà, l'an dernier, il y a eu 5 poussins produits, et en ce moment, il y a déjà 5 poussins nés. Et tous ne sont pas nés. Il y a une seule femelle qui a fait 3 œufs féconds. Là, si vous voulez, il y a un prélèvement de première ponte, qui ne peut se faire, bien sûr, que dans des conditions expérimentales. On prélève l'œuf dès la ponte, et la femelle repond. Et l'œuf qu'on a extrait, on le met en couveuse. Et ça permet, avec un seul couple, d'arriver à produire plusieurs poussins, alors que dans la nature, il n'en fait qu'un seul. Alors il y a eu des gypaètes hollandais, belges, suisses, détenus dans tous ces zoos de tous ces pays, et qui sont maintenant répartis dans un certain nombre d'établissements ou de centres de prévus pour les futurs lâchés. Et il y a déjà eu des gypaètes qui ont été lâchés soit par accident, soit intentionnellement, au début du projet. C'était des gypaètes venus d'Afghanistan et qui se sont parfaitement bien intégrés à la faune alpine actuelle après plus de 70 ans d'absence, puisque les gypaètes ont disparu des Alpes en 1880, quelque chose comme ça. Et depuis cette date-là, aucun gypaète n'avait survolé le ciel des Alpes. Et ces gypaètes se sont immédiatement réintégrés à la faune actuelle, se sont comme par hasard fixés sur les réserves où vivent le plus de chamois ou le plus de bouquetins, et ont vécu comme le gypaète que vous avez vu là, avec les animaux morts dans les avalanches, etc. C'est un animal qui sait parfaitement utiliser les ressources de la montagne, et qui est même adaptable, qui peut même utiliser les ressources d'une station de ski et les gadous, les tas de déchets d'une station de ski. Il ne faut pas trop le dire, bien sûr, il ne faut pas construire des stations de ski pour nourrir les gypaètes, parce que, bien entendu, il y a des quantités de facteurs négatifs dans une station de ski, mais c'est un animal qui est relativement adaptable. Donc ça peut permettre d'imaginer que sa survie est plus facile. Pardon ? Le fusil et les collectionneurs d'œufs. Si vous avez la curiosité de visiter les musées d'Europe, vous serez étonné de voir la quantité de gypaètes venant des Alpes, venant de Sardaigne, que vous y trouverez. Et comme par hasard, ces deux populations ont disparu. On n'y trouve jamais de gypaètes corse, la population a subsisté. On y trouve peu de gypaètes pyrénéens. Mais on y trouve, il y a des centaines de gypaètes alpins dans les musées d'Europe, qui sont tous datés 1850, 1860, 1870. Et les œufs. Alors les œufs, ça a été la grande folie. Et les œufs de gypaètes se vendaient très cher. La taille d'un œuf de gypaète, c'est comme un œuf d'oie, je crois, c'est pas très très gros. Et c'est rouge brique, alors que l'œuf du vautour est blanc. Mais ceci par les collections. Je n'ai jamais vu un œuf de gypaète dans la nature. On s'est toujours interdit d'observer ces oiseaux au moment le plus précaire, qui est l'œuf ou le jeune poussin. Pour éviter justement qu'une absence de la femelle causée par notre présence ne leur soit fatale. On peut tolérer une absence de quelques heures quand le poussin est très gros, qu'il a son plumage et qui peut lutter contre le froid ou la chaleur, mais au stade petit poussin, il faut absolument prendre des précautions vraiment très 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 draconiennes.
Combien êtes-vous de passionnés là, Alexandre ?
Combien de naturalistes étudient les rapaces pyrénéens ? Quelques dizaines maintenant ? Enfin, il y a un petit groupe de 5 peut-être qui s'occupe vraiment de les suivre. Et chaque année, on essaye de faire le tour complet de tous les nids qu'on connaît. D'abord parce que ça nous fait plaisir, et puis surtout pour une espèce aussi faible en effectif, je crois qu'il faut être très très vigilant. L'an dernier, tous les couples étaient là, mais il y a eu combien, 3, 4 poussins connus sur les 11, et c'est très faible. Alors on espère que c'est le mauvais printemps.
L'an dernier.
Alors, ce qui est important, c'est que les couples soient là. Mais par exemple, un couple qui niche et qui subit le dérangement d'une cordée d'alpinistes tous les dimanches, il abandonne son nid. Alors si ça se multiplie, les espèces comme ça ont besoin de fabriquer des jeunes. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Si pendant quelques années, il n'y a pas de poussins, dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans, il y aura une chute brutale. Les adultes ne sont pas éternels.
Ils reviennent à leur nid, toutes ces rapaces reviennent systématiquement.
Alors il y a une fidélité extraordinaire, absolument fantastique. Les gens qui ont pu suivre les individus, parce que nous, en fait, on constate qu'il y a un couple dans le même trou depuis toujours. Oui. Il y a des nids qui étaient connus il y a des siècles. Par exemple, je pense au faucon pèlerin. Il y a des nids connus dans la vallée de la Dordogne par les fauconniers du Moyen-Âge et on retrouve le même nid occupé aujourd'hui. Donc c'est une fidélité. Ah oui, c'est des traditions.
Le petit revient là où il a été.
C'est ça parce qu'en fait, d'abord il se souvient de l'endroit et puis en fait, il y a une configuration du site de la caverne qui correspond parfaitement à l'endroit que le gypaète apprécie pour nicher. Les rapaces forestiers aussi, autour des palombes, souvent utilisent la même aire. Et d'année en année, il change quelquefois, une buse lui prend son nid ou une martre, mais enfin, il aime bien y revenir. Ou alors le petit coin de forêt où il a construit son nid, mais enfin, c'est quand même moins marqué qu'une falaise, parce que finalement, un arbre, ça se retrouve plus facilement qu'une cavité.
Et les territoires dont on parlait tout à l'heure, c'est délimité à une étendue à peu près de temps.
Alors, c'est très schématique, ça dépend de la densité des proies. À l'époque où on a débuté, on pensait qu'une vallée pyrénéenne des Pyrénées-Atlantiques délimitait le territoire d'un aigle ou d'un gypaète, d'un couple d'aigles ou d'un couple de gypaètes. Maintenant, on pense que c'est un peu plus petit que ça. Mais ça représente 200 km², c'est-à-dire 20 000 hectares à peu près, pour l'un ou l'autre. Ils ont à peu près le même territoire, je pense que tu es d'accord avec moi. Et c'est un très grand territoire pour l'aigle, parce que les aigles des Alpes ou les aigles du Tyrol ou les aigles d'Écosse ont des territoires beaucoup plus petits. Je pense que c'est lié à une proie plus facile. S'il y avait dans les Pyrénées des marmottes en quantité, parce qu'il y a quelques introductions de marmottes, mais c'est pas suffisant, je pense que les aigles seraient peut-être un peu plus abondants. Parce qu'ils ont une bonne densité, mais néanmoins, c'est une espèce relativement rare. Un couple tous les 15 ou 20 km, c'est pas énorme. Mais enfin, pour l'instant, ça permet à l'espèce de remplir totalement l'espace. sans causer le moindre préjudice au cheptel proie dont elle vit. C'est ça qui est extraordinaire.
Bon, et c'est le tour qu'on a vu tout à l'heure.
Pierre. Pierre.
En bonne entente, bah, vous avez vu, c'est qu'on, il y a des, quand plus un animal est agressif, plus il y a de soupapes pour éviter que son agressivité soit dangereuse. Alors finalement, les aigles royaux, pour éviter de se faire du mal, parce qu'ils pourraient se tuer, une empoignade d'aigle royal, ça pourrait être mortel, bien entendu. Une serre d'aigle royal, ça pourrait étrangler un homme si vraiment l'aigle le voulait. Eh bien, ils ont des comportements, par exemple, de dissuasion avec des vols festonnés, c'est-à-dire un vol, une succession de piquets de ressources. Michel pourra en parler mieux que moi, il suit les aigles toute l'année. Bon, c'est un vol qui a à peu près la même signification que le chant du merle, c'est-à-dire, ça veut dire, ici je suis chez moi, au toit de là que je m'y mette. Ne viens pas parce que je vais te... Bref, tu vas empiéter sur mon territoire. Alors ces vols permettent de marquer le territoire, et puis les autres aigles, quand ils viennent, eh bien, il y a quelques passades peut-être, mais il n'y a jamais vraiment de combat, ça n'existe pas les vrais combats. Ou alors, c'est le combat du petit faucon crasserelle qui pique sur la buse ou sur le corbeau pour le chasser de son territoire. Et habituellement, l'oiseau possesseur d'un territoire gagne toujours sur l'intrus. C'est pas une question de taille, c'est une question de bon droit, si vous voulez. Dans une falaise partagée en deux par deux territoires, un crasserelle à gauche et un faucon pèlerin à droite, ou un aigle à droite, eh bien, si l'aigle va dans le territoire du faucon crasserelle, malgré l'énorme différence de puissance, eh bien, l'aigle va être chassé par la crasserelle, parce qu'il n'est pas dans son territoire. Alors, les vrais combats, c'est entre les espèces elles-mêmes, bien sûr, quand il y a des concurrences au niveau alimentaire. Alors oui, le gypaète adulte ne descend pas parce qu'il y a des immatures qui le gênent. Là, certainement, il y a une gêne. On a constaté une concurrence entre aigle royal et gypaète. Bon, et puis les vautours, il n'y a pas de territoire parce que ce sont des animaux grégaires. Alors au contraire, ils ont besoin du nombre pour chercher la nourriture. C'est exactement l'inverse, là. On pense que les vautours ont besoin d'un seuil critique de population qui leur permet d'explorer la population. Parce que la stratégie de recherche des proies par les vautours, enfin des proies, des charognes, c'est... Ils se partagent en gros l'univers de montagnes qu'ils survolent. Et puis quand l'un d'entre eux voit quelque chose, eh bien il descend. Parce qu'il a vu des corneilles qui tournaient, il descend, il voit une carcasse. L'autre vautour qui voit le vautour descendre, descend. Et de proche en proche, en quelques minutes, par le téléphone magique. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et au début, tous les gens décrivaient le flair extraordinaire des vautours qui sentaient les charognes. En fait, les vautours n'ont aucun flair, comme tous les oiseaux. Et c'est uniquement la vue de proche en proche. Alors... On pense que dans les Cévennes, d'ailleurs c'est notre problème, il faut une population assez importante pour qu'elle puisse trouver les charognes. Trois vautours perdus dans une immensité, apparemment, ça ne devrait pas marcher.
Moi je voudrais que Louis Lardos là, nous parle un peu de ce qui est... Il y en a d'autres, je parle de Louis comme je parlerai d'autres personnes qui connaissent les rapaces, mais peut-être lui. J'ai entendu dire tout à l'heure, et je me suis un peu accroché, que le Gers, ma foi, c'était un département où il n'y avait pas de nature. Alors il ne restait plus rien. Et je ne suis pas d'accord avec la situation, mais je pense qu'il est capable, parce qu'il les observe. Mais si, voilà, il en voit tous les jours, c'est déjà quelque chose. Monsieur Terrasse, vous voyez, ils ne sont pas tous au muséum d'histoire naturelle. Voilà.
Je souhaite qu'il y ait des rapaces, parce que je pense que... Il faut remplacer l'image du rapace, vous savez, cette espèce de silhouette funeste qui plane dans le ciel, que les chansons 1900 montraient comme l'animal qui extrait les poussins au ventre de la mer. Il y a un petit mieux, oui. Enfin, il est très léger au niveau global, hein, mais il y a nettement un mieux quand même. La crasserelle augmente chez vous, vous êtes certain? Oui. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que je voudrais remplacer l'image du rapace d'innuisible par le rapace, au contraire, symbole de la richesse de la nature. En fait, si la nature était pauvre, il n'y aurait pas de prédateurs. Le fait de voir des prédateurs sur votre terre, ça veut dire que vous avez une terre encore riche et diverse.
De près, oui. Par contre, je crois que personnellement, on a la chance de ne pas avoir de palombières dans le coin, parce que les chasseurs de palombières sont très funestes pour les oiseaux, quels qu'ils soient. Et moi, je les ai vus tirer à des pinceaux, je les ai vus tirer à des merles, parce qu'un chasseur qui est enfermé dans une cage en bois pendant toute une journée, eh bien, il faut qu'il fasse parler la poudre. Et la poudre, ça sera même les martinets, ça sera, et les rapaces, et plus les autours qui attaquent les pigeons. Alors là, eux, ils n'ont pas de chasse. Oui. Voilà, c'est ça.
Il tire aussi les faucons pèlerins. Il y a un couple de faucons pèlerins qui viennent disparaître tout près de Lourdes parce qu'il est tout près d'une palombière. Et,
voilà.
Et hier, j'ai appris, enfin pas hier, à midi, j'ai appris que la femelle d'un des derniers couples du Lot de faucons pèlerins a été tuée il y a 5 jours par des chasseurs de palombes. Donc c'est malheureusement fréquent. Le scandale, c'est que des chasseurs puissent se permettre de chasser encore au printemps, puisque nous sommes au printemps, depuis le début du mois de mars. Le printemps de la nature, ça commence vraiment à la fin février. Et la directive européenne qui devrait uniformiser toutes les lois de chasse de toute l'Europe a recommandé à la France de fermer la chasse à la fin février. Et je pense que là, on aura marqué un grand point. Mais même, je crois, quand on aura marqué ce point-là, les chasseurs, par le biais du tir des espèces nuisibles, qui permettent de chasser en dehors des règlements, continueront à chasser le ramier jusqu'à je ne sais quelle date. Et ça, c'est très grave, parce que c'est pas au niveau du ramier que ça pose un problème. Le ramier se défend relativement bien. C'est au niveau de tous les animaux qui détruisent en même temps. Et là, il n'y a pas de contrôle possible. Les bécasses. Oui.
Est-ce que la puce mange autant de poulets qu'on le dit ?
La bête aux poules ? Je pense que ça serait une mauvaise foi de dire que la buse ne mange jamais de poulet. Mais je ne sais pas s'il y a des agriculteurs ici qui ont eu des buses et des poules à la fois, ils pourraient peut-être répondre. Je pense que c'est exceptionnel la prédation d'une poule par une buse, mais ça doit arriver bien sûr une fois ou deux de temps en temps.
Le Milan était surtout un fameux prédateur des poulets.
Le Milan. En fait, les prédateurs de poulets sont les mauvais prédateurs. Et plus ils sont médiocres, plus ils se rabattent sur ces proies faciles, finalement. Alors évidemment...
Moi je pense que pour être resté auprès d'un nid de buses pendant plusieurs fois 8 jours, j'ai vu les buses porter à leurs petits, une aire à Montpezat, chaque jour une dizaine de rats ou de mulots, 3 ou 4 taupes régulièrement tous les jours aussi en faisant partie de la nourriture, et une ou deux vipères, quelquefois 3 quand il faisait orage, et 3 ou 4 lézards verts. Et je ne l'ai jamais vu porter de poulet, et je n'ai vu porter qu'une fois une poule d'eau, donc j'ai vu les pattes, je n'ai pas vu la poule d'eau, mais en fait, elle était mangée. Par contre, au Galabar, il y avait un nid, il y avait une buse qui ne portait absolument que des taupes et des lapins sauvages, et enfin des petits lapins, des petits lapereaux. Elle était spécialisée. Par contre, là aussi, il y a des buses qui sont vieilles, qui cherchent la facilité, et comme des cresserelles, qui se rapprochent des élevages, et alors là, ils s'en donnent à cœur joie. Alors, moi je dis aux paysans, ça c'est comme le pivert qui crève sans arrêt les contrevents. Bon, mais il faut pas s'en prendre à tous les pivers, mais je comprends qu'un coup de fusil, ben, c'est une solution.
Mais ou alors l'éloigner par des moyens dissuasifs.
Je voudrais qu'on a dans la salle quelqu'un qui est exceptionnellement de qualité pour nous parler des oiseaux et des rapaces. En plus, il est très bien placé, c'est Herman. Et on le connaît bien, on est bien content de le connaître. C'est demain lui qui nous fera les commentaires de la randonnée, qui nous dise ce chiffre qu'il m'a dit, qui m'a fait peur, le nombre de rapaces qui restaient depuis 50 ans et la différence qu'il y avait entre notre région et les autres régions. Tu veux nous le dire, je te prie, Herman. Tu veux nous dire le nombre de rapaces qui restent depuis 50 ans, le pourcentage de rapaces qui restent
2%.
Et chez nous
ici, en France.
Oui.
Non, reste en tout l'Europe. 2%
50 ans avant. Et tu penses que dans notre région, au lieu de 2, c'est 5.
Oui, ici c'est un peu plus comme le reste en France.
Voilà. Dans le monde entier, enfin, je parle en Occident sans doute,
oui.
Il reste 10% des rapaces qu'il y avait il y a 50 ans. En France, il n'en reste plus que 2%, ce qui est vraiment très faible. Et dans notre région, parce que c'est très difficile à les supprimer, il en reste 5%. Ça fait vraiment peu quand même. Hein.
Oui.
Et je pense que les grands absents, ceux qui en fait ont vraiment souffert considérablement, ce sont les petites espèces communes comme la cresserelle et l'épervier. Parce que l'épervier, qui est vraiment maintenant un oiseau exceptionnel, a dû être extrêmement abondant en France. En 1954, c'était l'oiseau le plus détruit dans les battues de destruction, l'épervier. Hein? Beaucoup plus que la buse, beaucoup plus que la cresserelle. Et maintenant, c'est un oiseau qu'on compte dans les départements. Dans la régression des rapaces dont vous parlez, c'est les hivernants. Il faut imaginer qu'il y a 50 ou 100 ans, on avait non seulement beaucoup plus d'éperviers, de cresserelles, de buses de chez nous, mais on avait tous les hivernants venus du nord qui maintenant ont disparu. Il faut imaginer que le pigargue, par exemple, qu'on appelait en France l'orfraie commune, qui est l'aigle de mer, il était archi commun en France. Il y en avait des centaines. Maintenant, il en restait 4 cet hiver. Et quant au faucon pèlerin, qui était vraiment le pèlerin, parce qu'à l'époque, il nichait presque pas en France. Hein. Les grands ducs étaient tellement abondants en France qu'ils empêchaient les faucons pèlerins de nicher. Mais par contre, on avait chez nous des milliers de faucons pèlerins migrateurs qui venaient de Finlande, de Suède, de Scandinavie, d'Allemagne, etc. Il faut que vous dire qu'il y avait 2000 couples de faucons pèlerins en Finlande, il en restait 4 il y a 2 ans. Il y a 2 ans ou 5 ans. Et je crois que l'espèce a légèrement monté, maintenant il y a 7-8 couples peut-être en Finlande. Et ça, c'est uniquement la chasse par les chasseurs, essentiellement de la frange littorale atlantique française, qui ont absolument éliminé les faucons pèlerins à coups de fusil en l'espace de 30 ans. Et les faucons pèlerins que vous avez vus ici sont peut-être des migrateurs venus du nord encore. On en voit quelques-uns, parce que les faucons pèlerins chez nous sont sédentaires.
Je crois que ce qu'il faut ajouter quand même, c'est que c'est savoir la place. Ça fait pour moi, hein, ce que je connais, j'en connais très peu. La place qu'on les rapace dans notre région, et j'en parlerai que de deux, puisque c'est ceux que qui m'ont le plus intéressé, que j'ai vu le plus près. Les rapaces diurnes, c'est l'épervier et l'autour. L'épervier, autrefois, quand les moineaux faisaient le péverit, quand les moineaux étaient en train de gratter dans le sable pour s'épouiller, l'épervier arrivait, il prenait un moineau, il revenait 2 heures après, il en reprenait un autre, et c'était vraiment, je crois, 90% de l'alimentation de l'épervier, c'était les moineaux. C'était un oiseau extrêmement fort en matière de chasse, il restait en bordure des bois et des haies, et il prenait beaucoup de moineaux. Maintenant, l'épervier a disparu, mais les moineaux pullulent. Et moi non plus autour des maisons. Autre chose, je suis resté pendant plusieurs semaines à surveiller les nids d'autour. Chaque jour, l'autour portait à petit, de 8 à 10 à 12 gets et pies. Il a une technique de chasse remarquable, alors, tout à fait remarquable. Il se met contre les troncs d'arbres, il attend, et quand les gets et les pies passent, au lieu de s'y lancer directement dessus, il pique vers le bas et il prend de l'élan et il remonte, il les reprend en remontant. Et les jeunes pies, les jeunes jets ne savent pas la technique, partent en remontant, ils se font crocher à chaque fois, alors que les vieilles pies et les vieux jets, quand ils sentent l'autour derrière eux, se laissent tomber par terre et ils ne savent pas refaire le changement de vol et automatiquement ces bestioles s'échappent. Par contre, ils s'attaquent quelquefois à des lièvres et ça lui vaut la vie parce que en essayant de tenir le lièvre d'une patte et avec l'autre patte attraper les broches, il arrive à s'écarteler. En fait, ça, c'est un autre grand problème. Mais il y avait beaucoup de jets et de pies. Et dans les bois où il y a des autours, je vous assure, ils sont éclaircis. Et là, c'est un peu plus le vide. Mais dans les bois où il n'y a plus d'autours, eh bien, les jets, qui sont des graves prédateurs des petits oiseaux, pullulent maintenant. Le jet. Vraiment, si je disais à un chasseur « tu es quelque chose », tu es un jet, parce qu'il y en a trop. L'homme doit être le remplaçant de ces prédateurs qui ont disparu, mais alors l'homme ne sait rien faire raisonnablement. Ou bien il va exterminer un renard, ou bien il va en laisser trop, ou bien il va exterminer un jet, il va en laisser trop, c'est un autre problème. Évidemment, il vaudrait mieux qu'il y ait quelques autres. On va conclure. Oui.
Oui, d'autant plus qu'il en est incapable.
La nature, normalement, il devrait y avoir un équilibre. Or là, quand l'homme se met de vouloir soit supprimer les rapaces, soit même supprimer les chiens, je ne sais pas jusqu'où tu vas, la régulation des nombres légers va se faire tout seul. Bien sûr, pas sûr quelques années, je suis sûr 10, 20 ans, 30 ans peut-être, mais si l'homme a le droit léger, il y en aura moins.
Seulement sur les petits oiseaux, par exemple, que je surveille, moi, que j'aime bien, eh bien, il y a 8 nids sur 10 qui sont bouffés au printemps, avant le mois de juin. Alors quand au mois de juin, ils trouvent des fruits, là, ils les abandonnent. Mais jusqu'au mois de juin, attention, un nettoyage. Ils les cherchent comme on cherche, nous, les moucherons, d'une branche à l'autre, avec une patience. C'est quelque chose. Pour moi, le jet est le plus grand destructeur de petits oiseaux que je connaisse. Je sais pas. Oui ?
Je dois porter des propos sensiblement différents à ceux qui sont tenus là. C'est des propos qui ont figuré dans la dépêche du midi.